Radio Barque, contre-regard sur l'actualité narbonnaise. Radio Barque 38e, bonjour Michel.
Bonjour Jean-Claude.
Bonjour Laure Dandoc. Vous êtes co-gérante, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, hein, de l'abbaye.
C'est exactement le titre.
C'est exactement le titre de l'abbaye de Fontfroide. Alors, bien entendu, cette troisième partie sera consacrée à vous, à la co-gérante, et à ce bâtiment prestigieux, ce bâtiment historique, qui est aussi un des hauts lieux touristiques de la Narbonnaise. Nous reviendrons là-dessus plus en détail. Auparavant, notre sommaire, eh bien, nous commencerons par... Alors, quoi d'autre? What else, comme dit la pub? Quoi d'autre?
Le feuilleton du Racing, évidemment.
Racing, hein. Qui, chaque semaine, nous apporte son lot de cocasseries, on va dire.
C'est une tragicomédie.
Oui, quand même. Bon, un peu la même chose, d'ailleurs, pour le pont de Carcassonne.
Oui.
Et c'est dramatique pour pas mal de gens.
Oui, c'est un pont, non pas d'Avignon, mais voilà, une véritable arlésienne.
Mais là, il y a eu un petit coup de com' qui a été fait, qui apporte un peu aussi à la cocasserie.
Oui, c'est vrai.
Après quoi, tu reviendras sur un de tes contre-regards du blog de la semaine, l'affaire Navarro.
Oui, pas le commissaire.
C'est vrai que des Navarro, il y en a un certain nombre. Il s'agit de Robert Navarro.
C'est ça.
Ancien sénateur et toujours sénateur.
Il est toujours sénateur, ancien vice-président de la région Languedoc-Roussillon.
Ancien vice-président, etc. etc. Et
j'en dirais
de bon. Et puis, bon, une affaire qui est au tribunal en ce moment. Après quoi, sur une deuxième partie, alors là, ça sera le show d'Elga, en tout cas région.
Oui, on va parler de la région essentiellement, oui.
Oui, et de sa présidente.
De sa présidente.
Cela va de soi. Alors commençons par le Racing, les petites mésaventures et les rebondissements de la semaine.
Oui, après la manif des supporters de dimanche, ils étaient fort nombreux d'ailleurs, dimanche dernier, j'entends, hein, où ils ont manifesté devant l'hôtel de ville, la maison du peuple, hein, comme il se doit. Hein, comme il se doit.
Le peuple était devant sa maison.
Voilà, exactement. Leur peur, leur angoisse, leur crainte de voir leur Racing descendre en Fédéral 1, et de rassembler d'ailleurs devant une banderole, une très belle banderole, soyez dignes. Soyez digne du Racing.
Oui.
J'ai trouvé d'ailleurs la banderole et le mot d'ordre très fort, quoi, hein, car en la circonstance, il est juste. Mmh. Aujourd'hui, on a l'impression, en tout cas, c'est l'impression que j'ai, en fait, Jean-Claude, que tout le monde est un peu baladé dans cette affaire.
Hein.
Et j'en veux pour preuve le dernier article, l'avant-dernier article que j'ai lu, en tout cas dans l'Indépendant, qui laissait entendre que ça y est, hein, l'air était à la concertation, à l'accoussement, en fait, entre l'association, la mairie et Roquelson, le patron, hein, le seul patron quasiment du Racing, patron au sens capitaliste du terme, j'entends. Mmh. Hein,
on avait l'impression que les grands ennemis se réconciliaient.
On apprend dans la presse qu'Alson avait réglé une partie de la dette, la moitié, je crois. En fait,
160 000 euros, se dit-il.
Dû à l'association, qui était le noyau. Hein,
oui, c'est une partie de la dette.
La dette, et puis c'était là-dessus quand même que le maire, qui lui-même finance l'association, hein, à des montants très élevés, avait dit, bon, tant que ce problème-là ne sera pas réglé, il n'est pas question que moi-même je liquide la subvention que je dois... dernier reliquat,
au Racing. S'agissant de l'argent des contribuables, ça peut se comprendre.
Oui, bien sûr. Donc, mais patatras, la réunion se termine, et puis le lendemain, je lis dans la presse de cette réunion que c'était pas réglé du tout, quoi.
Oui,
hein, mais l'échange avait été musclé.
Ce qui a été réglé, c'est une partie de la dette, mais la manière dont elle a été réglée augure mal de l'avenir.
Ben oui, parce qu'on apprend que ça a été musclé
ça, c'est la réunion avec M. le maire.
Oui, j'entends bien.
Mais la façon dont la dette a été réglée, apparemment, c'est un virement qui a été fait sans bien que l'association aurait découvert.
Oui, mais c'est Jean-Claude. C'est le laconisme bien connu de nos amis anglo-saxons. En fait, ils font pas dans le protocole, ils font dans le protocolaire.
Un
chèque,
un virement. C'est un point quand même.
Et compte tenu de l'ambiance, je dirais, affective, pour un petit peu, entre les différents acteurs. Entre les différents acteurs du jeu, on ne peut pas attendre Keystone qu'il se comporta autrement. Cela dit, quand même.
Oui, il aurait pu faire un petit mot de garde de visite. Vous ai réglé, gros bisous, un truc comme ça.
Des économies, en fait. Non, mais franchement, on est dans une situation quand même qui pose problème, quoi. Moi, j'ai intitulé le billet que j'ai consacré à cette affaire-là. la stratégie du faible au fort, quoi. Hein. Tout ça pour dire que le Rocky Stone qui fait l'objet, il faut bien quand même le dire, les choses comme elles sont, quoi. Hein. D'attaque, je mets des guillemets autour d'attaque, hein, ou en tout cas de pression de la part de tous les acteurs narbonnais, hein, associations, la mairie, puis les sponsors. Je porte pas de jugement sur les raisons en fait de cette affaire-là. Oui, hein.
Mais
je fais le constat.
On cherche à avoir sa peau.
Voilà, je fais le constat. Donc, dans ce contexte-là, c'est vrai que les choses sont difficiles à régler et que lui, Faitelson, il se place dans une position où il dit, voilà, moi, je vais jusqu'au bout, hein, je vais jusqu'aux extrêmes de la tension, puisqu'on en est là.
Jusqu'aux extrêmes.
Oui. Et puis, bon, voilà, l'enjeu, c'est que si on ne résout pas le conflit positivement et sur un terrain que j'ai choisi d'une certaine manière, eh bien, bon, pouf, tout tombe.
Voilà, et le bateau coule et
Et tout le monde tombe à l'eau, quoi, hein, l'association, la mairie, etc. Et après, il faudra expliquer aux supporters, aux contribuables narbonnais, aux électeurs, bref, à tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin aux racines, qui constituent quand même encore, en fait, hein, un emblème, un symbole.
Et un public.
Et un public, une reconnaissance de la ville. Hein, bon, il faudra leur expliquer qui prend à la responsabilité de cette affaire. Ça ne va pas être coton.
Voilà.
Et c'est vrai qu'on a maintenant jusqu'à pratiquement la mi-juin, la fin juin, pour savoir comment
avec
on va en sortir.
Une assemblée générale.
Positivement.
Prochaine, voilà. Suite au prochain numéro.
Voilà.
Restons à Narbonne avec le pont de Carcassonne.
Le pont qui fait couler.
Qu'on appelle de Carcassonne, qui est celui de la route de Carcassonne.
Un pont qui continue plutôt à faire couler des trains, si je puis dire, sous lui, mais pas de voiture sur le pont en question, puisqu'il a été bloqué jusqu'en 2022, alors, si j'ai bien lu.
Paraît-il, oui. Alors là, c'est
l'État.
C'est ahurissant, quand
par
même.
Par l'État, au motif qu'il risquait tout simplement de s'écrouler un jour avec les voitures, les camions qui passeraient dessus.
Ça peut-être, mais que l'État annonce 2022 dans 6 ans, excuse-moi, mais pour parler même un peu familier, c'est un beau foutage de gueule.
Je ne sais pas si c'est l'État. En tout cas, c'est en tout cas ce que dit le maire de Narbonne de la réponse que lui aurait donnée l'État quant à la durée des travaux, parce qu'il faut des études préliminaires.
Ouais, enfin, c'est pas sérieux. 6 ans, c'est pas sérieux.
Enfin, bref. Grosse opération de communication. Alors, je dis grosse, le qualificatif n'est pas innocent, parce qu'il y a quasiment tout le groupe majoritaire de Nouveau Narbonne sur le pont, au risque. Alors, du coup,
tous sur la photo, une très petite partie, minoritaire. Mais remarque.
Elle couvrait tout le pont, en fait.
Ah oui.
Sur la photo. Sur la photo. Et voilà, donc, dans le style, vous allez voir ce que vous allez voir. Et on apprend, effectivement, en lisant la presse en question, que pour résoudre en fait, le problème de circulation induit par cette catastrophique fermeture, on allait fluidifier la circulation sur les boulevards extérieurs.
Oui.
Là aussi, je vais faire la comparaison avec Paris.
On verra le résultat.
En mettant à double sens.
Oui.
Sauf que je me suis laissé dire que pour l'un des boulevards en question qu'on va mettre à double sens, il y aurait aussi et surtout une pétition qui circule depuis quelque temps adressée au maire avec un nombre de signatures conséquentes, des riverains de la rue Mosaïque, parallèle effectivement à ce boulevard, qui depuis le sens unique là, en question, voient des flux considérables de voitures.
Oui, alors ça va peut-être un peu résoudre ce problème-là.
Voilà.
Puisque Gambetta va être remis en
double sens. Le pont résout deux problèmes à la fois.
Apparemment, la mairie fait avec ce qu'elle peut, là.
Oui, mais bon, voilà, certains esprits mal tournés pourraient considérer qu'après tout, bon, ce double sens n'est pas du tout provisoire et que, bon, voilà, il obéit peut-être à d'autres considérations
de toute façon,
que le pont.
Si c'est vrai qu'il est parti pour 6 ans, c'est déjà pas rien. Surtout qu'entre-temps, il y aura eu une élection municipale.
Voilà. Donc c'est sûr que ce pont va faire l'objet de remarques et d'agitations un peu politiciennes.
Pour terminer cette première partie, l'affaire Navarro. Alors Navarro, Robert.
Oui, ouais, Robert, qui entre parenthèses, Robert Navarro, est originaire du Cuxac. D'Aude. Donc c'est un local,
c'était un local,
mais qui a fait toute sa carrière politique à Montpellier, puisqu'il a été avant d'être élu, il a été passez-moi la vulgarité du propos, le premier porte-flingue de Georges Frêche dans le département. C'est-à-dire qu'il était là, bon, à la fédération, patron de la fédération, avec sa femme, qui était d'ailleurs chargée de mission de la même fédération, Et de surcroît, tant qu'à y être, assistante parlementaire, bon, pourquoi pas, quoi,
chargée de mission au pluriel, petite entreprise, avec un S au pluriel.
C'était une petite entreprise familiale, quoi, on peut dire comme ça.
Bon, et il se retrouve au tribunal.
Mais oui, parce que la fameuse affaire de la pizza connexion, en fait, hein, il s'est fait prendre la main dans le sac après que Georges Frêche soit décédé, hein, et que les affaires commencent à sortir. Il s'est fait prendre la main dans le sac et au motif que, tout simplement, il y aurait 80 000 et quelques euros de frais de déplacement en avion à droite à gauche dans des pays exotiques, fait, et des frais de bouche pour des montants considérables.
C'est ce qu'on lui reproche,
qui aurait été détourné des caisses de la fédération en question. Alors, c'est pas les socialistes, comment dirais-je, locaux qui ont ouvert l'affaire. Hein.
C'est le Parti national.
C'est le Parti national qui avait mis la fédération en question sous tutelle à l'époque où Georges Frêche avait démissionné du Parti socialiste pour faire sa campagne régionale.
Hein, compliqué tout ça.
Voilà, contre la candidate officielle du parti, qui est Hélène Mandrou, que tu vas recevoir d'ailleurs.
Très bientôt. La semaine prochaine. Hein. Oui.
Donc, voilà, règlement de compte, donc il est passé en correctionnel, et puis, bam, 20 000 euros d'amende requis.
Ça, c'est ce qui est requis.
3 mois de prison, enfin, tout avec sursis, quand même, parce qu'on n'est pas trop méchant, quand même, avec nos élus de la République, en fait, dans les tribunaux. Et 3 ans d'inéligibilité qui arrive un peu tard, parce qu'il est déjà élu.
Il est réélu.
Donc, alors, ce qu'il y a de drôle, quand même, c'est que les mêmes, là, socialistes, qui doivent tout, en fait, à Navarro et à Georges Frêche, qui continue à entretenir son image, quoi, son culte à travers des statues, une association à la gloire d'eux, des posters dans les sections et dans la fédération, les mêmes qui étaient là au procès, bon, ne me foutent pas un mot. Quoi, hein,
oui,
parce qu'en réalité, dans cette affaire-là, bon, il faut le dire, il faut les choses comme elles sont. Ce procès, en fait, hein, est un procès en détournement de responsabilité. Parce que le père Navarro, là, si je puis dire, il n'a fait qu'obéir aux ordres de son patron, qui était Georges Frêche.
C'est un peu le parfait rôle du bouc émissaire.
Donc, les fréchistes historiques, en fait, hein, et de toute éternité dans ce département, ils tirent à vue maintenant sur leur ancien copain Navarro qui a fait leur carrière, hein, pour détourner effectivement le viseur des responsabilités véritables qui sont celles effectivement de leur patron adulé aujourd'hui qui est Georges Frêche.
Voilà. On marque une première pause sur cet épisode riche en rebondissements et dont on attend d'ailleurs le jugement qui est mis en délibéré.
Certainement après les vacances.
Voilà. Donc, suite bientôt. Première pause.